Tu écoutes le podcast Culture Générale de Major Prépa, la référence des étudiants en prépa, en partenariat avec Audencia Business School.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau podcast Major Prépa en partenariat avec Audencia Business School. Je me trouve aujourd'hui avec Belinda Cannon. Belinda Cannon, vous êtes écrivain, vous êtes essayiste, vous enseignez la littérature comparée à l'Université de Caen. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment deux ouvrages sur le désir. Le premier, donc, L'écriture du désir, qui a obtenu le prix de l'essai de l'Académie française. Et par ailleurs, donc, un autre ouvrage, Petit éloge du désir. Pour ce second podcast avec vous, Belinda Cannon, vous allez donc réfuter l'idée selon laquelle le désir est un manque. Au contraire, selon vous, le désir est un plein et un mouvement adressé à autrui.
Le désir, dans la tradition philosophique, a été longtemps considéré comme une force néfaste, comme un cheval fou, comme une puissance à maîtriser, voire à supprimer. Chez Épicure, il y a cette idée, par exemple, que ce qu'il faut atteindre, c'est l'ataraxie, c'est-à-dire l'absence du désir. Que tout soit suffisamment comblé, que nos désirs soient suffisamment comblés pour que nous n'ayons pas ce mouvement qui nous pousserait à désirer, c'est-à-dire à espérer. Et pourquoi cette conception du désir ? Parce qu'il est, il a été perçu traditionnellement comme un manque. L'idée, c'est que le désir est un manque, et c'est visible même dans son étymologie. Le désir serait ce qui nous manque, serait le mouvement que nous faisons pour essayer de combler ce manque permanent en nous. Je crois que c'est une erreur, philosophiquement. C'est-à-dire, je ne crois pas que c'est comme ça qu'il faille considérer le désir. Le désir, ce n'est pas un manque, c'est un plein, justement. Le désir, c'est un... Enfin, ce qui nous fait nous lever, c'est évidemment l'envie de combler un appétit. Mais en même temps, ce qui nous fait nous lever, ce qui nous fait marcher, est déjà une satisfaction pleine. Le désir, c'est ce qui nous comble. Le mouvement même de désirer nous comble. Lorsque nous désirons, nous ne sommes pas malheureux de désirer, ce qui serait le cas si le désir était un manque. Lorsque nous désirons, nous sommes pleins de cette énergie qui est celle du désir, et donc nous sommes déjà dans la satisfaction. Le désir, c'est la promesse de la satisfaction tenue, renouvelée sans cesse. Donc je crois c'est une erreur de considérer le désir comme un manque, au contraire, c'est un plein. Ce qui serait un manque, c'est la dépression. Dans la dépression, justement, on est dans le manque. On est dans le manque d'énergie, on est dans le manque de joie. La dépression, c'est l'image même du manque. La mélancolie, c'est le manque. C'est ce qui nous manque profondément. Le désir, au contraire, c'est un plein. Et vous remarquerez que quand on est dans le désir, on est joyeux. Le désir s'accompagne de joie. Et surtout, le désir nous conduit à nous faire nous sentir absolument vivants. Et ça, c'est aussi le corollaire du désir. Le désir, c'est le sentiment même d'être vivant. Très précieux. Ça aussi, c'est une chose qui fait défaut à la dépression ou à la mélancolie. C'est précisément dans la mélancolie, on a l'impression d'être dans un mouvement négatif, morbide. Hein, c'est la force de Thanatos, la mélancolie. Tandis que le désir, la force d'Eros, c'est au contraire ce qui nous donne le sentiment d'être vivant et donc joyeux. Alors, c'est pourquoi je ne comprends pas, au fond, je conteste le fait qu'on puisse associer le désir au manque. Et je me suis intéressée beaucoup au désir sensuel en tant qu'il est la pointe la plus ardente du désir de vivre. Hein, le désir de vivre général, c'est ce qui nous meut tous les jours. Et puis, dans les moments du grand désir, du désir sensuel qui nous pousse vers un autre, nous ressentons le désir dans sa force la plus vive, la plus brûlante. Or, ce désir sensuel, le grand désir sensuel, je ne parle pas de ce qui serait presque un besoin, le besoin de faire l'amour, le besoin d'étreindre un corps. Je parle du grand désir, c'est-à-dire celui qui nous fait choisir quelqu'un, qui se pose sur quelqu'un. Et donc, qui n'est pas un désir errant, vague, erratique, mais qui est au contraire un désir adressé. Le désir sensuel, quand il est adressé, est un mouvement intime que je dis de façon un peu paradoxale altruiste. C'est-à-dire qu'il s'intéresse profondément à l'autre, il est dirigé vers un autre, il est adressé à un autre, et cet autre, il le met en gloire, si vous me passez l'expression. C'est-à-dire qu'il le considère dans sa grandeur, dans sa beauté, il le considère avec indulgence et bienveillance, il le considère dans sa souveraineté. En ce sens, le désir sensuel est un désir profondément altruiste, et c'est sans doute aussi pourquoi, parallèlement, le désir est devenu une valeur dans notre société. Après avoir été le désir sensuel, après avoir longtemps été mis de côté parce qu'il était considéré comme une pulsion mauvaise, hein, dans la tradition chrétienne, on considère le désir comme une concupiscence et comme une chose négative. Dans certaines traditions philosophiques, on le considère comme un manque et donc à nouveau comme quelque chose de négatif. En réalité, le désir a acquis un statut honorable au XXe siècle. Il l'a acquis à travers la psychanalyse, qui a compris que le désir était au cœur de la construction du psychisme humain. Donc c'était une façon déjà de lui enlever les soupçons de concupiscence, de pulsion négative. Il l'a mis à l'honneur en disant que l'être se construisait autour d'une certaine gestion, pour le dire un peu prosaïquement, du désir. Ce désir a aussi été valorisé par l'émancipation des femmes, paradoxalement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les femmes sont devenues le sujet de leur désir, où tout à coup on a reconnu leur désir et on l'a valorisé, et où elles ont demandé à en être maîtresse, alors là aussi, deuxième manifestation de cette transformation du désir. Si bien que pour aller un peu vite, on arrive aujourd'hui au début du XXIe siècle, à une époque où on considère que le désir est une valeur, et il est même fondateur de l'amour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'amour, le désir physique, est considéré comme un élément capital de la constitution du couple et de son rapport d'amour. Ce qui pose par ailleurs des problèmes pour le couple, parce que le désir n'ayant pas la même temporalité que l'amour, étant beaucoup plus fugitif, eh bien évidemment, quel type de couple construisons-nous et construirons-nous dans les temps à venir ? C'est une autre question. N'empêche que nous voyons aujourd'hui partout, il suffit de regarder les kiosques des journaux, nous voyons aujourd'hui partout que le désir est devenu une valeur, et je trouve cela légitime dans la mesure où, comme je l'ai dit, c'est un sentiment altruiste. C'est un sentiment qui met l'autre, qui pose l'autre comme roi et reine. Hein, c'est un sentiment qui pose l'autre comme souverain et comme majestueux. Voilà, donc je crois que le désir, la question du désir sensuel a elle aussi beaucoup changé de statut depuis le XXe siècle et qu'aujourd'hui on est arrivé à un moment où il a acquis vraiment ses lettres de noblesse.